L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque week-end. Merci d'être là. Tout à l'heure, notre French Tech Tour, nous irons à Montpellier, notre dossier de l'atelier US. On évoquera l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va changer notre manière de travailler? Nous verrons ça tout à l'heure avec Pauline Cantner, la rédaction de Zeronet.com aussi dans quelques minutes, et puis le crash test d'Antoine Cyr. Mais avant tout cela, on va aborder un sujet qu'on aime beaucoup dans l'atelier, c'est la médecine et le numérique. Et aujourd'hui, Lila, n'ayons peur de rien, on va évoquer la médecine sans médecin.
On va se poser la question, la médecine sans médecin est-elle possible?
On salue évidemment toutes les professions médicales qui nous écoutent.
Mais bien sûr.
Et qui vont être, à mon avis, là, accrochées à leur radio, je pense.
Très, très curieux. Alors, pour en parler, on a le plaisir d'avoir en studio Guy Valencien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Guy Valencien, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Vous présidez l'École européenne de chirurgie et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage baptisé La médecine sans médecin, le numérique au service du malade, collection Le Débat chez Gallimard. Alors, vous associez un peu l'impact des progrès de la médecine, on en parlera plus tard, à celui du stéthoscope. Plus que ça, cette sensation que vous essayez de donner un vrai coup de pied dans toute tentative de misérabilisme, de gênement. L'idée, c'était ça, c'est la raison de votre ouvrage de positiver sur cet essor de la médecine.
Oui, bien sûr, parce qu'on croit toujours qu'avant c'était mieux. C'est pour ça que je raconte un petit peu les drames que nous avons vécus depuis l'an 1000 où la France était cannibale. En Bourgogne, on mangeait des gens tant la faim était forte. On assassinait sur les routes des gens et on les mangeait. On vendait de la viande humaine au marché de Tournus. Et donc je montre que la France n'était pas si rose à l'époque et que les progrès que nous avons connus ont été gigantesques. Mais ils sont, je dirais, ils ne sont rien à côté de la mutation magistrale que nous sommes en train de vivre dans tous les domaines de l'économie humaine. Et la médecine n'y échappe pas. Et si j'ai parlé de la médecine sans médecin, c'est parce que, si vous voulez, moi je fonctionne, mon cerveau fonctionne par algorithme. Pour faire un diagnostic, on va chercher des éléments, on en agrège, on en élimine d'autres et on aboutit à 2-3 hypothèses. Donc, je suis un algorithme vivant, biologique. Et bientôt, l'ordinateur qui est à côté de moi va me remplacer parce qu'il pourra aller.
Vous pensez que l'intelligence artificielle pourra diagnostiquer comme ça?
Bien sûr, à partir d'éléments nombreux que la personne atteinte pourra indiquer à l'ordinateur, l'ordinateur va cristalliser un tas d'éléments et aboutir à des hypothèses diagnostiques. Donc, l'ordinateur va m'aider parce qu'il ira chercher des causes que je ne connais pas. Ou que je n'ai plus en mémoire. Deuxièmement, au point de vue du traitement, la même chose. Aujourd'hui, on génotype les tumeurs, c'est qu'on regarde leur génome. Et on sait que pour un même malade, une même tumeur, il y a un malade qui va faire des métastases et l'autre pas. Et c'est le génome qui va nous le dire. Je ne peux pas analyser, moi, urologue, chirurgien, 3 milliards de bases. Donc c'est la machine qui, en analysant ces données, va me dire, écoutez, il faut plutôt faire ce traitement ou celui-là. Donc je vais être dépossédé des outils qui faisaient mon métier, le médecin, en termes de technique. Et ce qui va me rester, c'est toute la relation humaine, au contraire. Parce que je vais être à la disposition du malade qui, quoi qu'il arrive, ne croira jamais l'ordinateur. Il aura besoin d'une personne qui lui dise, qui le conforte.
Ou en tout cas pour les 50 prochaines années. Peut-être qu'un petit peu plus tard, il croira à la machine.
Oui, ça sera le robot. Le robot malade parlera au robot médecin. Peut-être qu'on reviendra à cela. Mais en gros, c'est ce qu'on voit en consultation quand on a tout expliqué et que la personne vous dit à la fin, et docteur, si c'était vous.
Donc pour comprendre, l'ordinateur serait le médecin généraliste dans un premier temps de demain.
Oui, l'ordinateur fera de plus en plus ce diagnostic, participera à l'indication du bon traitement. Les robots vont se développer à toute vitesse. Moi, ça fait 20 ans que j'ai mis les mains dans un télémanipulateur chirurgical. Demain, ce sera un véritable robot qui assurera tout seul un certain nombre d'opérations. La machine a pour avantage de n'être jamais fatiguée, jamais dépressive, elle ne tremble pas, et puis elle a une force qu'on ne connaît pas, c'est que lorsqu'elle ne comprend pas, quand un robot ne comprend pas, il s'arrête. L'homme, lui, poursuit et force. Donc il y a des atouts à la machine. La machine m'aide, elle m'aide à mieux faire avec mes mains. Donc je vais être, comme chirurgien, en partie dépossédé de ce savoir-faire chirurgical, mais ce qui restera, c'est, je le répète, c'est la relation que j'aurai avec celui ou celle qui va être opéré, de façon à le mettre en perspective. Je vais devenir le bioconseiller.
L'interprète également.
Et l'interprète, bien sûr.
Oui, de toutes ces données, bien sûr, de ces résultats.
Parce que c'est compliqué. On a beau tout avoir sur Internet et essayer de tout comprendre, on est perdu, on a besoin de quelqu'un, d'un professionnel qui vous remette en perspective ce qui vous arrive. Et c'est ça le rôle fondamental du médecin qui a toujours été et qui était en train d'être perdu sous la pression de la technologie et de la vitesse de consultation. Il faut de la médecine lente.
Mais... toutes les spécialités vont être impactées à votre avis ou il y en a qui seront un petit peu plus préservées?
Toutes les spécialités vont être impactées. La chirurgie, curieusement, la première. Alors bien sûr, il restera des cas où l'homme fera, parce que quand vous avez des traumatismes, on pense à ce qui s'est passé récemment, là, la machine ne sait pas faire. La machine sait faire sur des domaines bien réglés. Et ça va nous prendre quand même une partie du travail.
En situation d'urgence, ça risque d'être
plus compliqué. Non, en situation d'urgence, on gardera l'homme, bien sûr, sur des champs d'action militaire ou terroriste. Il faudra toujours des chirurgiens capables d'opérer à toute vitesse. Mais on voit bien qu'on va être en partie dépossédé de ce savoir-faire qui nous caractérisait. C'est pour ça que je parle de la médiamédecine en disant avant, c'était mes mains, mes yeux, mes oreilles qui voyaient, qui faisaient. Et aujourd'hui, ce sont des instruments. On n'attend pas d'avoir une boule dans le sein pour vous faire le diagnostic à la mammographie. On n'attend pas d'avoir un toucher rectal avec une prostate dure comme du bois. C'est le dosage de antigène de la prostate. On n'attend pas d'avoir des complications pour vous faire un diagnostic de diabète avec une prise de sang. Donc les maladies deviennent muettes. On les détecte avant qu'il n'y ait des symptômes. Et ça, ce sont les machines qui nous le permettent.
Ça va arriver quand, ça, docteur, à votre
avis ? C'est en train de venir, mais jour après jour. Je sors de l'Académie de chirurgie où nous étions sur une réunion sur ces sujets. La vitesse à laquelle vont les ingénieurs...
C'est-à-dire que vous êtes épaté tous les jours par la rapidité.
Oui, une accélération inimaginable. On en est à prendre l'image de votre foie, par exemple. Vous avez une tumeur du foie, on vous prend l'image à la résonance magnétique ou au scanner. Cette image, on la triture pour aller la mettre devant vos yeux sur l'écran opératoire. Ça va vous permettre de savoir que derrière la tumeur, il y a la petite veine que vous ne voyez pas avec vos yeux. On va être en pilotage aux instruments. De plus en plus, comme pour les pilotes d'avion.
Mais avec cette évolution du rôle du médecin, est-ce qu'il n'y aura pas une nécessité de faire évoluer également ses responsabilités ? Qui va être responsable s'il arrive un incident opéré par une machine ? Qui va...
Mais c'est déjà le cas, puisque de plus en plus, nous sommes entourés d'instruments, nous mettons en place des prothèses, des pacemakers, un tas de matériel implanté. Et là, déjà, la responsabilité devient systémique, c'est-à-dire qu'on regarde si l'instrument était défectueux ou si c'est la pose qui a été mal faite, s'il y a une erreur du chirurgien ou de l'industriel. Ça existe déjà, ce n'est pas nouveau, ça ne fera que s'amplifier. Et donc, on partagera probablement la responsabilité lorsqu'il y aura un peu des deux qui seront en jeu.
Alors, en revanche, vous pointez un danger, c'est que cette médiamédecine pourrait faire du secteur médical une industrie et des médecins, des cadres sup enjoints à faire du chiffre. Comment on évite cet écueil ?
Alors, on est en train de passer de l'artisanat médical, c'était ça, on ressemble un peu aux agriculteurs. Deux vieux métiers, les plus vieux métiers du monde. Eh bien, les agriculteurs, quand vous regardez aujourd'hui, ils sont à l'ordinateur, ils sont au GPS, le tracteur fonctionne tout seul, il est suivi, il y a les satellites qui regardent la longueur du champ. Avec des drones, on vous dit exactement quel type de blé a poussé et on vous rajoute ce qu'il faut comme pesticide. C'est impressionnant de voir comment cette profession
c'est tout réglé au millimètre.
La médecine, c'est pareil. Et ça ne veut pas dire que je ne reste pas au contact de la nature, l'agriculteur, et au contact de l'homme en tant que médecin. Pas du tout. Il va falloir, en revanche, apprendre aux étudiants en médecine ces nouvelles données qui aujourd'hui ne sont pas enseignées dans les facultés, et c'est un vrai débat.
Elles sont loin d'être enseignées, à votre avis,
ou
est-ce que malgré tout, voilà, ça commence à rentrer un petit peu dans le cursus?
La jeune génération pianote avec les deux pouces sur son smart, très bien, moi je prends mon index lent, elle est totalement intégrée dans ces problématiques, mais l'enseignement n'est pas fait, on ne leur apprend pas à être aussi un peu à distance de ces outils, et il va falloir le faire, donc injecter à la fois beaucoup plus d'empathie, de psychologie, d'économie de la santé, et de numérique dans les études médicales, pour être au fait de ce qui va se passer.
Et de data science, j'imagine. J'imagine, est-ce que le médecin demain ne devra pas avoir certaines compétences d'analyse, d'interprétation, de gestion des données, ou son assistant médical sera en fait un data scientist ?
Alors on va sans doute parcelliser le métier, on va avoir des personnels à niveau intermédiaire entre l'infirmière bac plus 3 et le médecin bac plus 12, vous n'avez quasiment rien, il y a les sages-femmes par exemple qui sont à un niveau master, il faut injecter beaucoup plus de personnel niveau master, il y aura des ingénieurs opérateurs qui seront formés sur des zones anatomiques données pour travailler sur des robots données, ça va totalement bouleverser le champ d'action de la médecine, et moi je resterai à la relation personnelle.
Ouais. On voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un débat avec la voiture connectée. S'il y a un accident, qui est responsable? C'est vrai, on se pose la question. Demain, qui sera responsable? C'est la machine ou le médecin, s'il arrive un accident?
Non, mais comme je vous dis, les deux, en fin de compte. La difficulté qu'il y a, c'est... Le vrai problème de la voiture connectée, c'est... Va-t-elle reconnaître un bout de papier ou un chat sur la route? Et est-ce qu'elle va freiner et vous basculer les enfants qui sont derrière, ou est-ce qu'elle va écraser? Et ça, la machine ne sait pas encore le faire. Elle ne sait pas la différence entre le paraître et le vrai. Et c'est le vrai problème de l'intelligence artificielle dont on pourra discuter un autre jour. Mais ça va, peu à peu, on va voir qu'on y arrivera. On en sera de plus en plus précis dans l'analyse de l'image en face de laquelle on sera confronté.
Alors, peut-être dernière question, parce que le temps tourne, malheureusement, c'est passionnant. On voit que, d'après ce que vous nous dites, on sera de plus en plus monitoré, surveillé. Ce qui fait que finalement, on aura besoin de moins en moins de médecins, non? Parce que si on est tout le temps surveillé, finalement, on pourra prévenir certaines maladies et ne plus, enfin, aller moins souvent chez le médecin.
Mais oui, mais tout à fait. Je pense qu'il faut moins de médecins qui vont être dévolus justement à cette relation humaine pure, et beaucoup plus de personnel technique intermédiaire qui vont nous aider à faire le boulot. C'est une combinaison tout à fait nouvelle et qui choque beaucoup, mais ça va se passer comme ça.
Passionnant.
Passionnant, merci beaucoup.
Ça donne
beaucoup
envie de lire votre livre.
Tout à fait. Votre ouvrage, La médecine sans médecin, le numérique au service du malade, paru dans la collection Le Débat chez Gallimard. Guy Valencien, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir et merci.
Allez, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Vous restez avec nous, French Tech Tour et dossier d'atelier US dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous comme chaque week-end, 16h-18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. La rédaction de 01net.com dans quelques minutes avec Eric Le Bourlou. On va s'intéresser à l'actualité high-tech de cette semaine que vous avez pu lire sur 01net, mais auparavant, notre dossier de l'atelier US et notre French Tech Tour. Et avec vous, Aurore Géraud, direction Montpellier. Comment Montpellier se détache d'IBM pour devenir une vraie cité intelligente?
Oui, François, comme vous pouvez le constater, cette semaine, on est très Smart City à l'atelier numérique. Donc, je prends la suite de Nathalie qui parlait de la Smart City aux États-Unis pour me concentrer sur Montpellier pour ma part, pour ce French Tech Tour. Et je prends l'opportunité d'ailleurs au passage pour faire une annonce, puisque l'atelier BNP Paribas est partenaire des prix de l'innovation Smart Cities que développe le journal Le Monde. Et d'ailleurs, j'invite toutes les startups qui nous écoutent à déposer une candidature jusqu'au 15 avril pour ces prix de l'innovation. Donc de retour à nos moutons, je suis en compagnie de Chantal Marion, qui est vice-présidente de Montpellier Métropole en charge du développement économique. Chantal Marion, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'était vu à Barcelone en octobre dernier, si je me souviens bien, au Smart City Congress. On avait parlé un petit peu de comment Montpellier se développait en tant que Smart City historique, comment elle était pionnière. Là, on va se poser la question, quelle est l'étape d'après? Quand on est déjà une Smart City, comment on fait pour être smarter?
Après 5 ans de recherche et développement, avec un engagement de la métropole très fort, un investissement d'abord financier de 4 millions d'euros, au bout de 5 ans, s'est posé la question, maintenant, il faut passer dans un autre domaine, c'est-à-dire arriver que toutes ces données collectées et stockées, entre autres chez IBM, on puisse s'en servir pour avoir des applications valables. Donc nous sommes passés dans une seconde phase. Cela, d'abord, c'est très bien de se remettre en question, effectivement. Et c'est très bien de revoir un petit peu la nouvelle feuille de route et voir avec qui on peut s'engager.
Vous étiez effectivement partenaire d'IBM et donc partenaire historique. Vous décidez de vous émanciper?
Alors, s'émanciper, non. Mais c'est de passer à une phase supérieure. Comme dans toute recherche technologique, à un moment donné, il faut se dire, tout l'argent qui a été engagé, tout ce qui a été mis, il faut qu'il y ait des outils que les citoyens puissent s'approprier dans le cadre de la cité intelligente. Déjà, par exemple, il y a un quartier Eureka qui se construit en ce moment, dans un quartier justement qui est dédié à ce qu'on appelle la Silver Economy, qui est à côté d'ailleurs du BIC et qui est à côté de notre incubateur et de toutes nos pépinières. Il va y avoir des habitations, mais il y aura des habitations qui vont être proposées à des personnes âgées, qui ont des difficultés peut-être à se déplacer, etc. Et également des entreprises qui vont être liées justement sur la cité intelligente, au numérique entre autres. Donc c'est l'application de toute cette période de recherche et développement. Alors on avait déjà lancé un appel à idées l'année dernière, c'est-à-dire les laisser les données qui sont stockées aux entreprises pour qu'elles s'approprient, des données qui étaient évidemment anonymisées, tout ceci géré par la métropole, avec confidentialité sur évidemment les données et sur le code IP de la personne qui l'utilise, de façon à ce que les entreprises s'approprient toutes les données qui sont stockées et puissent proposer des solutions intelligentes, des solutions adaptées, des réponses pour cette cité intelligente. Et d'ailleurs, on renouvelle cet appel à aider pour l'année 2016.
Et est-ce qu'on peut penser que ça prend en compte, par exemple, tout ce qui est open data? Alors, je crois que vous êtes plutôt open data avec les start-up, notamment. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait penser aux citoyens aussi?
Mais vous savez, les start-up, les entreprises, ce sont des citoyens. C'est ce que je disais hier, quand j'ai fait mon discours à la mêlée, qui est le correspondant de la French Tech de Montpellier Méditerranée Métropole. Les entrepreneurs, on les prend souvent comme des entrepreneurs, on ne pense pas que c'est des citoyens qui votent, qui paient des impôts et qui surtout créent des emplois. Donc effectivement, c'est une priorité pour nous et puis pour moi qui suis vice-présidente du développement économique.
Alors quelles sont les priorités en plus général de votre programme pour les années à venir ?
Ce qu'il y a de bien, c'est que justement cette cité intelligente a un côté très transversal. Elle touche tous les domaines et les piliers de la métropole qu'a désigné Philippe Sorel dès sa mandature en tant que président. Donc il y a évidemment la santé, il y a le numérique, ça en fait partie automatiquement. Il y a évidemment l'agrologie, l'alimentation, le tourisme, la mobilité, n'en parlons pas, c'est là où on a commencé avec la cité intelligente, en mettant les capteurs sur les tramways entre autres et sur les vélos. Et il y a également tout ce qui est économie énergétique. Donc il y a des applications qui sont très diverses et variées, vu que c'est transversal.
Alors pendant ces deux jours, on a parlé de transport et de multimodalité. Est-ce que l'idée pour les années à venir pour Montpellier, c'est aussi de centraliser les choses. Je pense notamment à la carte et la future application TAMS qui permet dans une seule et même plateforme d'avoir, et une carte, d'avoir accès à différents types de transports et également à tout ce qui est commercial lié à ces transports. Est-ce qu'on peut envisager que ce soit quelque chose qui se fasse dans les autres domaines qui sont vos priorités ?
Pourquoi pas ? Au niveau d'administration, effectivement, d'abord de par la mutualisation et le transfert de compétences sur la métropole, on va être obligé d'avoir ce genre d'application. On tient quand même toujours à être un laboratoire vivant.
Vous vous émancipez ?
Ce mot vous plaît, oui, puis ça me va très bien de m'émanciper parce que j'ai jamais été très sage. Donc oui, la métropole s'émancipe. Pourquoi elle s'émancipe ? Parce que on définit la métropole de Montpellier, c'est une femme de 30 ans active. Une femme qui travaille, qui est mariée, qui a des gosses, qui s'agite, qui prend le tramway, qui fait du vélo, etc. Donc elle peut de temps en temps s'émanciper parce que des fois elle est un peu fatiguée. Donc la métropole va s'émanciper en prenant des décisions, des directions qui justement vont renforcer, parce que la métropole de Montpellier en tant que cité intelligente est reconnue internationalement. Chaque fois que je me déplace à l'international, on me demande de parler de la cité intelligente. On est un modèle, je pense, au niveau international, parce qu'on a commencé très tôt. Toulouse commence à peine son projet de recherche et développement. Nous, ça fait 5 ans qu'on l'a fait.
Donc du coup, une smart city mature.
Si vous voulez, mature et émancipée, ça va très bien ensemble. Hein.
Merci beaucoup Chantal Marion, que je rappelle, est vice-présidente de Montpellier Métropole en charge du développement économique.
Merci beaucoup Aurore. Et après notre French Tech Tour, c'est notre dossier de l'atelier US et c'est avec vous Pauline Kantner. On va parler d'intelligence artificielle cette semaine. Est-ce qu'elle va changer notre manière de travailler ?
Oui François, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et comment cette technologie va transformer nos sociétés, à commencer par notre rapport au travail. J'ai la chance d'être aux côtés de Nicolas Pinto, expert de l'intelligence artificielle basé dans la baie de San Francisco. Nicolas, c'est d'abord un chercheur amoureux de l'informatique et du cerveau. Il a travaillé pour des universités aussi prestigieuses qu'Harvard ou le MIT. Il est aussi le cofondateur de Perceptio, une startup qui a justement à l'origine recours à l'intelligence artificielle pour classifier les photos de son smartphone, startup qui a été depuis rachetée par Apple. Alors dans un premier temps, Nicolas, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Bonjour à vous. Donc mon nom est Nicolas Pinto. Je viens d'un petit village du nord de la France. J'ai fait la plupart de mes études en France, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Finalement, j'ai pas mal voyagé. J'ai voulu aller explorer d'autres horizons. J'ai atterri aux États-Unis en 2006, où j'ai fini mon diplôme d'ingénieur et j'ai enchaîné sur une thèse en neurosciences. Donc j'étais du côté de Boston au MIT. J'ai fait une thèse en neurosciences donc pour étudier l'intelligence, la vraie intelligence, pour essayer ensuite de la synthétiser dans des machines. Après j'ai fait de la recherche et de l'enseignement dans le domaine pendant 2 ans à MIT Harvard. C'est là où j'ai rencontré mon cofondateur. J'en ai eu un petit peu marre de l'académique. Je me suis dit que ce serait intéressant de changer d'horizon. Du coup, on est allé s'installer dans la Silicon Valley à Palo Alto pour fonder cette boîte appelée Perceptio en 2012. Et on a revendu cette boîte-là il y a 1 an et demi à Apple. Et maintenant, je suis expert en intelligence artificielle à Apple.
Mais alors, Nicolas, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
Voilà, c'est une très bonne question. Déjà, il faudrait avoir une définition formelle de l'intelligence. Je pense qu'on n'en a pas. On ne sait pas vraiment définir l'intelligence. Donc, je vais juste répliquer la définition de celui qui a créé le premier laboratoire d'intelligence artificielle au MIT en 1960, Marvin Minsky. Il avait dit tout simplement que ce sont toutes ces tâches qui sont faites de façon plus satisfaisante par des êtres humains. Donc, c'est intéressant cette définition parce que elle est très confortable pour nous les chercheurs parce que du coup c'est une cible qui bouge, donc on aura toujours du boulot. Par contre, c'est très inconfortable parce que c'est pas vraiment une définition scientifique. Bon, après une fois qu'on aura résolu le problème, je pense qu'on saura le définir. En général, on définit le problème qu'on veut résoudre avant de le résoudre. Là, c'est plutôt quelque chose où on va le définir une fois qu'on l'aura résolu.
Que faisait exactement Perceptio avant son rachat?
Donc on essayait de se focaliser sur l'intelligence artificielle mobile, donc de tout faire sur le téléphone. Et l'une des raisons principales, c'était de montrer que c'était possible de le faire tout en préservant la vie privée des gens. Donc construire des solutions intelligentes tout en préservant la vie privée des gens qui l'utilisent. Et de pas stocker toutes ces données, donc de les monétiser sur le cloud. Et d'où la synergie avec Apple, qui est une politique de vie privée très importante. Donc on a vraiment apprécié ce côté-là. Et aussi le défi technique de pouvoir réaliser ça sur un petit ordinateur. À l'époque, on faisait tourner ça sur un iPhone 4S, donc pas beaucoup de puissance de calcul, qui nous a permis d'avoir pas mal de breakthroughs techniques sur le type de modèle de réseau de neurones qu'on était capable de faire tourner. Donc ces deux aspects-là étaient très importants pour nous.
Beaucoup de gens disent que 2016 est l'année de l'assistant virtuel personnel. Quel est le lien avec l'intelligence artificielle et comment est-ce que vous voyez cette petite révolution dans notre vie de tous les jours?
L'assistant virtuel personnel, moi j'adore. Je suis en train d'utiliser beaucoup de ces services-là pour essayer de comprendre l'espace. L'interaction avec l'intelligence artificielle, elle est assez intéressante. Je pense que la manière dont on communique avec ces assistants virtuels nous force un petit peu à communiquer de façon plus intelligente, de telle sorte à ce qu'on puisse envoyer des requêtes qui soient plus petites, plus faciles à avaler, qui soient faisables en 10 minutes, voire une demi-heure, des choses qui sont plus faciles à déléguer finalement. Et au final, quand on interagit avec ces systèmes-là, on interagit d'une manière plus appropriée pour collecter des données, pour ensuite entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui pourront ensuite remplacer l'assistant virtuel qui, là, est principalement un assistant qui est humain.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi dans mon travail?
Je pense que ça va vous rendre moins anxieuse parce que c'est très intéressant le fait qu'on puisse lancer une tâche de façon asynchrone à son assistant virtuel. Et donc, dans la boucle ouverte qui était dans votre cerveau, vous étiez un petit peu anxieuse. Ah, il faut que j'appelle le dentiste demain, mais il est 11h du soir, je peux pas. Là, vous pouvez la lancer de façon asynchrone cette tâche à votre assistant personnel et lui ou elle va s'en charger le lendemain. Alors rien que ça, une espèce de plaisance d'esprit, c'est assez intéressant ce que ça fait à notre cerveau, vous faire gagner du temps, vous faire gagner des ressources, vous aider à être plus productif. Je pense que ça vous entraîne à avoir des meilleurs fondamentaux de productivité, qui est d'éliminer au début une tâche si vous voulez pas la faire, de mieux la déléguer, de la casser en briques que vous pouvez plus facilement avaler, de la formuler de façon à ce qu'elle soit délégable. Et toutes ces méthodes-là sont en fait plus intéressantes pour vous parce que ça vous rendra plus productif et ça rendra aussi plus facile l'entraînement d'intelligence artificielle derrière pour supporter les assistants virtuels.
Et on imagine de nombreuses applications pour pas mal d'industries. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus excitant aujourd'hui? Quelle industrie va le plus être amenée à servir de l'assistant personnel?
Oula, je pense que toutes les industries vont être bouleversées par ce genre d'assistant virtuel et intelligent. Je peux pas vraiment répondre. Je pense que je préférerais attendre et analyser l'espace avant de répondre.
Et pour terminer, donc vous avez mentionné que votre Perceptio a été racheté il y a 1 an et demi par Apple. Quelles sont les prochaines étapes pour vous?
La principale étape pour moi, c'est de m'assurer que donc ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones, apprentissage profond. J'aimerais bien que le fruit de ce travail finisse finalement sur l'iPad de ma mère. Donc c'est un peu my milestone à moi, c'est m'assurer que la technologie qu'on a produite soit déployée sur les produits Apple dans les prochaines années.
Très bien. Nicolas Pinto, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la startup Perceptio. Merci.
Merci à vous.
Pauline, merci. On revient dans un instant. Suite et fin de cet atelier, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Le crash test d'Antoine, bien sûr. Le décryptage de Guillaume de Grosse et la rédaction de zeronet.com dans 1 minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants, et puis on retrouvera aussi Guillaume de Grosse dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, direction la rédaction de 01net.com, le premier site d'actualité high-tech en France, et Éric Le Bourlou, son rédacteur en chef, est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, l'actu cette semaine, eh bien on va commencer par l'automobile.
Eh oui.
Les geeks adorent Tesla,
ouais.
Et ils ont fait la fête hier.
Ouais, c'était, vraiment la méga teuf. Hein.
Voilà, c'était ça.
C'était un peu ça, la conférence Tesla qui a eu lieu hier avec évidemment en grande star le patron de Tesla, Elon Musk. Et Tesla a présenté en fait sa voiture la plus importante, parce que Tesla pour l'instant a lancé de belles voitures,
ouais.
Mais qui sont extrêmement chères, qui sont réservées
à une élite, on peut dire, ouais.
Oui. Exactement. Et Tesla l'a présenté hier, sa Model 3. La Model 3, c'est enfin une voiture, on va dire, abordable de la part de Tesla. C'est une voiture, pourquoi elle est abordable ? C'est une voiture qui ne va coûter que $35,000. Alors, $35,000, on peut dire que si on convertit en euros, on ne sait pas exactement combien ça va coûter en euros. En tout cas, pour l'instant, c'est $35,000.
Oui, sachant qu'en plus, quand elle va arriver en France, on va y revenir, on a des aides en France. Hein.
Voilà.
Alors, rappelons que je crois qu'il y a 6 000 euros de moins lorsqu'on achète une voiture électrique.
Exactement. Donc, voilà, il faudra calculer le prix exact qu'il aura.
Ça sera dans les 30 000 euros, à peu près.
À peu près 30 000 euros. C'est pas donné, mais c'est quand même bien plus accessible. C'est le prix d'une voiture.
Oui, sympa.
Une bonne voiture,
en Europe.
Berline. Et ça reste quand même une vraie Tesla aussi, puisque cette voiture a quand même 345 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal.
Ce qui est beaucoup mieux que la concurrence.
Ce qui est aussi peut faire du 0 à 100 en 6 secondes, ce qui est aussi une performance tout
mal.
À fait honnête pour une voiture.
Mais c'est ça l'intérêt des moteurs électriques, c'est qu'ils ont un couple impressionnant.
Exactement. Et en plus, c'est vrai que Elon Musk l'a dit, nous, on fait pas de voitures lentes, on fera toujours des voitures performantes, etc., etc. Donc voilà, on a vu, en fait, donc, du coup, on a découvert cette voiture, elle va pas sortir tout de suite. Elle sortira on pourra la voir, en France vers 2018, mais on peut déjà, si vous êtes tenté, on peut déjà la réserver. Et c'est déjà un carton, on peut le dire, puisque en l'espace de quelques minutes, il y a déjà plutôt 115 000 véhicules qui, après la conférence, avaient été réservés. Donc, faut juste déposer quand même la somme de $1,000 chez Tesla. Donc, Tesla a déjà récupéré pas mal d'argent.
Voilà, on peut imaginer qu'ils ont au moins 150 000 fois $1,000 déjà.
Ça.
C'est pas mal.
Exactement. Et surtout, c'est sans commune mesure avec les précédentes commandes de Tesla. C'est vraiment le modèle qui pourrait transformer Tesla
pour qu'il devienne un vrai constructeur, d'envergure mondiale.
Exactement. Hein, et puis qui pourrait aussi chambouler un petit peu le marché de la voiture électrique, en fait. Donc, et puis on rappelle aussi que Tesla, c'est toutes les technologies que ça embarque, cette voiture aura le pilote automatique, l'autopilote, alors que c'est presque une voiture autonome mais pas tout à fait, et tout ce qu'on connaît de chez
grand
Tesla,
écran tactile, etc. Il sera moins grand que sur la Tesla S, mais ça c'est normal puisque la voiture est plus petite, mais ça sera quand même un grand écran de 15 pouces, imaginez à la place de votre tableau de bord, un grand écran tactile de 15 pouces, hyper fluide pour piloter votre voiture.
Et puis c'est une voiture, on rappelle, ultra connectée, qu'on peut mettre, qui est mise à jour régulièrement, etc. Donc voilà, la Tesla Model 3 a fait son apparition.
Voilà, si vous voulez d'ores et déjà la commander, je crois qu'on peut pas le faire en France encore.
A priori, je pense qu'on
vous l'avez pas encore commandé.
Ouais, non, moi je l'ai pas encore commandé. Non,
d'accord.
Je vais attendre.
C'était un petit piège en fait, c'est pour voir si vous aviez déjà.
Je pense qu'on peut déjà la réserver en tout cas.
Voilà. Très bien. On va parler maintenant de Microsoft. Alors bon, ça fait moins rêver que Tesla, mais malgré tout, si vous utilisez un PC à la maison sous Windows 10, cette info va vous intéresser. Microsoft s'apprête à balancer une mise à jour pour cet été qui est assez majeure, en tout cas qui est considérée comme majeure par Microsoft.
Oui, c'est une mise à jour assez importante puisque c'est Windows 10 est sorti l'année dernière en plein cœur de l'été. Et ben voilà, au bout d'un an, Microsoft a décidé de faire une mise à jour anniversaire pour Windows 10 et ça a été annoncé lors lors de la build, hein, cette conférence développeur qui a eu lieu cette semaine. Et donc il y aura effectivement une grosse mise à jour pour Windows 10 avec des choses qu'on connaît déjà chez Microsoft, mais qui vont être améliorées, notamment l'identification biométrique. Vous pouvez déjà évidemment, si vous avez un ordinateur compatible, vous identifier dans Windows avec votre doigt ou avec votre regard. Ça va être maintenant compatible avec les sites web, c'est-à-dire vous n'aurez plus forcément à indiquer votre mot de passe quand vous allez vous loguer sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Simplement, vous allez simplement regarder votre ordinateur ou utiliser votre capteur d'empreinte pour pouvoir simplement vous loguer.
On peut même imaginer payer, par exemple. Hein, on achète un billet d'avion, etc.
Effectivement.
Et ça marchera PayPal. Qu'avec Edge, le navigateur Alors, Microsoft, ou est-ce que ça marchera avec les navigateurs concurrents aussi?
Ça marchera avec Edge, parce qu'évidemment, Microsoft
petit peu sa techno pour lui.
Il essaye de faire décoller son navigateur maison qui pour l'instant a bien du mal à décoller.
Voilà. Qui est pas forcément très mauvais non plus. Hein,
C'est plutôt un bon navigateur, mais il lui manquait certaines fonctions. Donc maintenant ça se complète. Voilà. Il y a pas que ça. Microsoft joue aussi beaucoup sur l'écriture manuscrite. Hein, on le sait dans tous ses produits qu'il a présentés l'année dernière, Surface, Surface Pro, Surface Book, etc. Vous avez un petit stylet qui est livré avec. Et dans Windows 10, cette mise à jour de Windows 10, vous aurez une évolution de cette technologie au stylet, parce que Microsoft appelle Windows Ink, l'encre, on va dire. Et donc Microsoft va tout simplement en fait améliorer ses applications natives et les applications d'Office aussi, Word, Excel, PowerPoint, pour avoir un meilleur support de l'écriture manuscrite. Donc vous pouvez par exemple sélectionner des textes beaucoup plus facilement dans Word, vous pourrez annoter vos cartes, y compris en 3D dans Maps, vous pourrez et tout ça en plus sera compris par Windows. Donc si vous écrivez quelque chose à la main, ce sera automatiquement compris par Windows. Donc c'est plutôt intéressant, mais bon, après reste à savoir si c'est vraiment une attente des
et voilà clients. Exactement, est-ce qu'on a envie de reprendre un stylo pour interagir avec une machine?
Voilà.
C'est toute la question.
Effectivement, bon.
Apple aussi commence à prendre cette voie. On le voit l'Apple Pencil sur l'iPad Pro, les deux iPad Pro, hein.
Ouais, tout à
voilà.
fait.
Voilà. Après, bon.
Bon, en tout cas, voilà. Microsoft remet une couche sur cette technologie-là. Et on a aussi, voilà, il y a plein d'autres fonctions, on n'en va pas détailler ici, mais il y a aussi Cortana, son fameux assistant maison, qui va s'améliorer, devenir plus proactif, va vous proposer des choses.
Alors, on parlait des bots la semaine dernière dans l'atelier numérique avec Eric, justement, Facebook qui aimerait intégrer dans sa messagerie personnelle, vous savez, Messenger, des petits robots à qui on pourrait poser des questions, par exemple, commander une pizza, commander un Uber, etc. Comme si on discutait en fait avec un ami. Ouais. Eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Visiblement, Microsoft a envie aussi de miser sur les bots.
Exactement. Alors ça, c'était vraiment la nouveauté de cette conférence Build. Ça a été présenté par le patron de Microsoft himself. Microsoft, lui aussi, se lance dans ses robots logiciels, ses bots, ses agents intelligents, et qu'il estime être un peu comme Facebook d'ailleurs, le futur des applications mobiles.
À croire qu'ils se sont peut-être synchronisés, parce qu'on sait que Microsoft est actionnaire de Facebook.
Oui, et puis qu'ils sont effectivement assez copains.
Ils sont main dans la main, on va dire.
mais effectivement, donc Microsoft vient de lancer, donc pour l'instant, c'est à l'état de bêta, une toute nouvelle plateforme pour que les développeurs puissent créer facilement des robots logiciels. Donc c'est ce que vous racontiez, c'est typiquement un scénario, c'est vous demander à Cortana, que Cortana pourra discuter avec ses bots elle-même et vous ramener l'information. Vous pouvez demander à Cortana, j'ai besoin d'un hôtel parce que je vais à New York dans 15 jours. Bah, Cortana s'arrangera avec des bots, un bot de l'hôtel qui vous raillera, j'ai ça comme chambre, qu'est-ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous aurez plus qu'à dire, ok, je valide sur votre messagerie, typiquement Skype, puisque c'est Skype que Microsoft cherche à mettre en avant, mais ce sera compatible avec n'importe quelle messagerie. Vous aurez plus qu'à valider et hop, vous aurez votre chambre d'hôtel. Ça, c'est un peu on voit que c'est en train de prendre, parce qu'il y a Facebook, il y a Microsoft, il y a aussi d'autres entreprises, notamment asiatiques. Les messageries asiatiques sont déjà
beaucoup
pleines
là-dessus.
De bots. Voilà. Ouais. Il y a aussi Slack, la grande messagerie d'entreprise qui mise aussi beaucoup là-dessus. On va de plus en plus entendre parler de ces robots logiciels dans les mois qui viennent.
Voilà une tendance que vous découvrez peut-être en avant-première grâce à Eric sur BFM. On enchaîne avec ce bug très dérangeant signé Apple concernant certains iPhones. Peut-être avez-vous été confronté à ce genre de problème? Je l'ai été, Eric vous l'avez été aussi, c'est vrai qu'on est possesseurs tous les deux d'un iPhone. Pendant plusieurs jours, il était quasiment impossible de surfer via le navigateur Safari.
Oui, ça a été un grave problème pour Apple. Enfin, nous on l'a vu qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de lecteurs, de nos lecteurs aussi qui ont eu ce problème. Et effectivement, Apple pendant une semaine a eu un énorme problème. Les liens HTTP, les liens web, tout simplement, ne fonctionnaient plus. Vous ne pouviez plus utiliser votre navigateur.
En plus, ça plantait. Enfin bref, c'était.
Voilà. Ce qui s'est passé,
c'est rarissime d'ailleurs chez Apple, hein, ce genre de choses.
C'est rarissime, mais c'est voilà. Ce qui a planté, c'est qu'une nouvelle fonction qui a été implémentée avec iOS 9, en fait, qui s'appelle les liens universels. Voilà, a été mise en carafe à cause d'une mise à jour qu'Apple a faite sur ses serveurs. Ça montre aussi une chose, c'est qu'Apple parfois a vouloir trop en faire, c'est-à-dire gérer ses fameux liens, gérer les liens hypertextes à sa manière. Bah parfois on fait trop et ça fait planter toutes ces machines, ou en tout cas une partie de ces machines, puisqu'il fallait en fait avoir une application spécifique sur son smartphone pour que ça plante une application tierce, mais c'était quand même la faute d'Apple. Et Apple a tardé beaucoup à réagir, puisqu'ils ont mis quand même une semaine après le début du problème pour corriger ce problème via une mise à jour.
Oui, parce que nous sommes samedi, la mise à jour est arrivée jeudi soir.
Et les problèmes avaient commencé à peu près jeudi.
Ouais.
Donc jeudi dernier. Et voilà, c'est le dernier d'une longue série de bugs logiciels quand même qui commencent à arriver de plus en plus souvent chez Apple. On se rappelle de l'erreur 53, on se rappelle aussi de l'énorme bug qui avait planté tous les iPhones lors d'une mise à jour. Les iPhones, ne pouvaient même plus appeler. Les derniers iPhones, on ne pouvait même plus appeler avec iOS 8. Voilà, il faut qu'Apple fasse un petit peu attention aux mises à jour qu'il font.
Oui, la personne qui vérifie, qui est préposée aux vérifications des mises à jour logicielles, à mon avis, on a dû lui souffler dans les
bronches. C'est vrai qu'ils soignent beaucoup le design des téléphones et le hardware Apple, mais on sent un espèce d'un léger délitement au niveau du logiciel. Faut faire attention.
Voilà. Et c'est vrai que quand on rencontre ce genre de problème, c'est quand même assez embêtant. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Éric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du site zeronet.com, et qu'on retrouve chaque samedi dans l'atelier numérique. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on va terminer cet atelier avec le crash test d'Antoine Cyr, et puis Guillaume de Groisse de l'atelier, on va parler de réalité virtuelle avec lui. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi 16h-18h. Merci d'être là. On va bientôt se dire au revoir. Mais auparavant, le crash test d'Antoine dans quelques minutes avec Antoine Cyr. Et Guillaume de Groisse qui est avec nous de l'atelier. Bonjour Guillaume.
Bonjour François. Bonjour à tous.
Alors Guillaume, aujourd'hui nous allons parler de mobile et de réalité virtuelle, hein, c'est ça?
Exactement. Alors j'avais envie de vous parler de mobile et de ce que le mobile a changé dans nos usages quotidiens et surtout ce qu'il va changer encore. Alors, pourquoi le mobile, mon cher François? Eh bien, je me suis souvenu que dans mes jeunes années à San Francisco, hein, vous vous rappelez, c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, une des Wi-Fi très connues de la vallée, Mary Meeker, avait dit que d'ici à 2014, l'accès à Internet passerait par les mobiles et non plus par les desktops.
Ouais, j'en
Est-ce
souviens.
Que vous vous souvenez en quelle année?
Écoutez, en réfléchissant un tout petit peu comme ça, là, vous me prenez à brûle pour point, je dirais, allez, 2008. Allez.
Eh oui, exactement François, excellente mémoire. Donc en 2008, elle a dit ça, et ce qu'il faut se rappeler c'est que en 2007, 9% des utilisateurs de mobile ont un mobile 3G. En 2008, l'iPhone 3G vient tout juste de sortir, et dire que l'iPhone allait coûter la vie au Palm très haut, hein, on s'en souvient bien. Ensuite, au BlackBerry était une idée relativement répandue à ce moment-là dans la vallée. Mais de là à dire que l'accès à Internet allait se faire majoritairement via ce petit écran tactile en un peu plus de 5 ans, c'était franchement visionnaire. Eh bien, si on en croit ComScore aux USA, cette prévision s'est avérée juste. En 2014, sur les 5,3 heures de consommation d'Internet par jour, un Américain adulte utilise son mobile pendant 2,6 heures contre 2,4 heures pour son desktop. Bon, voilà, ça c'est dit. Et aujourd'hui, cette proportion a atteint 60% sous la pression des millennials. Alors, l'utilisation d'Internet a bondi de 50% en un an sur le mobile. C'est assez incroyable et ça montre bien la disruption du mobile dans nos vies. Elle est plus importante, plus rapide que ce que nous avons connu jusque-là avec l'arrivée du desktop ou même d'Internet.
Alors c'est vrai que ces chiffres sont impressionnants, Guillaume, mais on s'en doutait un petit peu, c'est pas nouveau tout ça.
Alors, c'est vrai vrai que c'est pas nouveau, mais en fait le sujet, François, c'est que c'est au-delà des chiffres qu'il faut regarder, c'est les usages. Et le premier grand changement, il avait déjà été perçu par Chris Anderson, hein, Chris Anderson quand même, le monsieur prospectif de Wired, qui écrivait en 2008, ce qui est définitivement notre année de prospective aujourd'hui, que le web tel que nous le connaissons était mort. Hein. C'était un article qui s'appelait « The web is dead, long live the internet ». Et à ce moment-là, il explique que les applications vont enterrer le web sous la forme des pages HTML que nous connaissons. Et ça, c'est assez visionnaire aussi. Alors, vrai ou faux, François, vous, votre premier réflexe le matin, c'est quoi ?
Bon, écoutez, alors, puisque vous me demandez de dévoiler ma vie privée, Guillaume, oui, je regarde mes mails sur mon iPad le matin.
Et moi aussi. Et en fait, on le fait tous, et on le fait tous avec une application, et certainement pas en allant chercher la page de votre messagerie online sur un portail, etc. Et donc, on utilise une app. Les podcasts de l'atelier numérique qu'on écoute tous le matin dans le métro, c'est pareil, on utilise aussi une app pour le faire, et on pourrait faire toute notre journée comme ça. Aujourd'hui, 86% du temps qui est passé sur le mobile, il est consommé via des apps aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette évolution. On pourrait parler de vidéos, on pourrait parler de social media, etc. Mais effectivement, tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Et ce qui est vraiment important, c'est la réalité virtuelle. Et cette réalité virtuelle, on la voit arriver au cinéma, on la connaît aujourd'hui dans des devices qui sont un peu type console, PC, hein, le Vive de HTC qui va sortir fin avril, l'Oculus Rift, donc rien d'exceptionnel. Mais par contre, la réalité virtuelle à 360 degrés sur mobile ou sur son équivalent, c'est sans doute ça qui va changer la consommation du contenu sur le mobile. D'ailleurs, Samsung offre un casque Gear pour tout nouveau Galaxy S7. Donc non seulement la réalité virtuelle va être mainstream, mais en plus, elle va arriver partout. Et donc, pour conclure, mon cher François, voilà ma prédiction. On se retrouve en 2020. Et je suis certain qu'on regardera l'atelier numérique en 3D sur nos smartphones.
Ouh là là, il va falloir faire attention alors. Hein. Il va falloir être bien coiffé, bien maquillé, tout beau là. Parce que c'est vrai que ça va être sympa. Merci beaucoup Guillaume. Et place donc au crash test pour terminer cet atelier numérique. Antoine, le point de départ de ce crash test cette semaine, c'est Hyperloop. Alors peut-être vous qui nous écoutez, avez-vous jamais entendu parler de l'Hyperloop? Et c'est pourtant un sujet passionnant.
Ah bah oui, c'est un sujet passionnant, c'est la révolution dans les transports. Ouais. Ce sont des véhicules qui se déplacent à une vitesse absolument folle à l'intérieur d'un tube, en fait, concrètement des trains, hein, c'est le TGV de l'avenir avec
des capsules en quelque
avec
sorte,
cette petite différence. Oui, alors c'est des capsules multipassagers, hein. Ouais. Avec cette petite différence avec les trains ou disons les navettes que l'on connaît aujourd'hui, c'est que ces machines se déplacent à 1200 km/h. Donc c'est un train quasiment supersonique. Et alors ce qui se passe, l'info vient de tomber, c'est que apparemment l'Hyperloop va arriver, et il va arriver en Europe, puisqu'il y a un projet d'Hyperloop qui devrait relier Bratislava en Slovaquie à Vienne en Autriche en seulement 8 minutes. Alors Bratislava et Vienne, je ne sais pas si vous avez déjà fait le trajet, moi je l'ai déjà fait, c'est pas très long, mais enfin ça prend quand même, avec la circulation, ça prend quand même deux bonnes heures.
Ah là, ouais, rendez compte, on passe de 2 heures à 8 minutes.
Carrément, carrément. Alors les 2 heures, ça inclut quand même sortir de la banlieue de Vienne et rentrer dans Bratislava. Hein. Mais donc voilà. Donc c'est un peu comme si le trajet Lille-Marseille se faisait en moins d'une heure. Donc le gouvernement slovaque a signé le 10 mars un accord avec Hyperloop Transportation Technologies, qui a été fondé donc par Elon Musk. Elon Musk, c'est Tesla, c'est SpaceX, c'est PayPal aussi, pour construire ce TGV totalement futuriste. Donc normalement, ça devrait arriver en 2020. Donc on aura ces capsules en aluminium qui vont circuler sur coussin d'air. Alors la technologie sur coussin d'air, elle existe déjà, hein, aujourd'hui. Vous avez déjà des trains qui circulent sur des espèces de vides qui sont par exemple le train le plus rapide du monde, qui est le Maglev, qui est expérimenté au Japon et qui permet d'atteindre près de 600 km/h. Concrètement, c'est un train qui exploite fait des forces magnétiques pour se retrouver en lévitation au-dessus des rails et ceci limite les frottements. Donc on est plus ou moins sur un système de cette nature. Donc il n'y a pas de contact entre la partie basse du train et donc le rail lui-même. Alors il y a un côté design hein, parce qu'on est dans le monde de Elon Musk. Donc le design futuriste de l'intérieur de la capsule a été imaginé par les étudiants de l'université de Californie à Los Angeles, UCLA. Et alors donc bah il y a beaucoup de gens en Autriche qui commencent à fantasmer sur l'idée que Vienne et Bratislava deviennent quasiment une ville unique.
Oui, c'est presque deux stations de métro.
Puisqu'elles sont séparées exactement par la distance de disons deux stations de RER. Donc, par ailleurs, Elon Musk est donc actuellement en train de faire construire un prototype de l'Hyperloop en Californie, sur une piste de 8 km de distance. Et donc,
pour tester le concept,
pour
en fait.
Tester le concept.
Parce que pour l'instant, c'est que sur le papier, tout ça.
Oui, tout à fait. Il y a des ingénieurs partout, évidemment, qui planchent sur ce modèle. Musk, qui a le sens de la formule, dit que c'est un cinquième mode de transport, en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains et donc évidemment c'est quelque chose qui peut complètement transformer le trafic. Alors ce qu'il faut quand même savoir c'est que vous avez une société qui s'appelle ET3 qui a été créé par un Américain aussi qui s'appelle Daryl Auster et en fait c'est Daryl Auster qui a été le premier à faire vraiment avancer cette histoire de train magnétique et qui est à l'origine du projet essentiel là-dedans qui est l'idée que ces tubes sont sous vide. Alors, sont-ils totalement ou partiellement sous vide? Mais de toute façon, il y a du vide et c'est le vide qui empêche en fait la présence d'une résistance. C'est-à-dire que le...
Et c'est pour ça que les capsules peuvent aller à une vitesse aussi élevée.
Exactement. Mmh. Alors, donc évidemment, l'idée au départ était encore plus fantasmagorique que l'idée de Elon Musk, puisque quand Daryl Auster avait présenté son projet, son idée c'était d'être sur le vide et d'atteindre 6500 km/h. Voilà, hein, et qui était donc de rallier Paris depuis Bombay en une heure. Alors le problème de ce système, c'est que là on était dans un système dans lequel on avait un tube vraiment un tube sous vide, et donc le tube qui est totalement sous vide, bah, c'est quand même assez dangereux, parce que si par exemple il y a une dépressurisation de la capsule...
On peut imaginer que sur 6500 km...
Ça peut arriver. Donc s'il y a une dépressurisation de la capsule, bah, en fait les gens qui sont dans la capsule sont morts instantanément.
Ah oui, c'est voilà. Un peu embêtant.
Voilà, alors que s'il y a une forme de vide qui n'est pas le vide total, on peut imaginer qu'il puisse attraper un masque à oxygène.
Improvisation totale.
Voilà, totale. On peut imaginer donc qu'un masque à oxygène permette de sauver la situation pour les gens concernés. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui finalement un peu plus raisonnable avec le projet de Elon Musk, hein, c'est normal puisque Elon Musk, lui, c'est un homme qui vit quand même dans le réel, même s'il vit dans l'effort, dans la projection et aussi un peu dans l'imaginaire. Mais donc on a clairement ce passage du train sous vide totalement futuriste à un projet qui finalement est presque plus raisonnable.
Très bien. À ce sujet, je vous conseille la biographie qui vient de sortir d'Elon Musk et qui est excellente, véritablement. Alors, je me souviens plus l'éditeur, mais je l'ai terminé il y a quelques jours de cela. Et on se rend compte c'est vraiment un personnage étonnant, Elon Musk, à découvrir donc dans cette bio qui a été écrite par un journaliste américain. Antoine, merci beaucoup. Ce crash test est terminé. Et avec ce crash test se termine l'atelier numérique. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, vous le savez. 16h, 18h. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à samedi.